Bienvenue à Un Expresso, s'il vous plaît. Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par siteexact.ca, une entreprise d'ici, de Shawinigan. Que vous ayez besoin d'un site web, d'une boutique en ligne ou de services de référencement web, Site Exact est là pour vous. Cette entreprise sera à l'écoute de tous vos besoins et vous aidera à réaliser vos projets. Pour plus amples renseignements, visitez siteexact.ca. Alors, bienvenue à Un Expresso, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a un super de bon sujet. Je suis présentement avec ma grande collaboratrice, Cathy Dubé. Allô, Cathy!
Salut, Annie!
Aujourd'hui, notre invitée spéciale est directement de l'Ontario. C'est la sœur de Cathy qui s'appelle Marie-Claude. Marie-Claude, c'est une enseignante de formation et puis maintenant, elle a fait le choix de faire l'école à la maison à ses quatre enfants. Alors, on va en discuter aujourd'hui. Le podcast va se séparer en deux segments, en fait. On va avoir le premier segment où est-ce qu'on va parler de son parcours professionnel et tout ce qui l'a amené à faire l'école à la maison avec ses enfants. Puis, au deuxième segment, on va parler de la vie de maman derrière cet enseignement-là à la maison, au niveau de la femme hein, qu'on est pour l'éducation, le temps qu'on a pour soi hein, quand on enseigne. Donc, voilà. Alors, bonjour Marie-Claude!
Allô Annie!
J'espère que tu vas bien!
Ça va très bien! C'est vraiment un plaisir pour moi là, d'être avec vous deux aujourd'hui.
Ben écoute, moi j'ai vraiment hâte d'en apprendre un petit peu plus sur le sujet parce que comme les gens le savent, moi aussi j'ai quatre enfants, mais je ne sais pas si je serais une bonne candidate en fait pour faire l'école à la maison. Alors voilà, j'ai vraiment hâte de t'entendre parler sur ce sujet-là.
Moi aussi j'ai vraiment hâte parce que j'ai vu quand même ma sœur évoluer, hein, tu sais, c'est ma sœur, hein, fait que je l'ai vu évoluer dans tout ça, mais je ne suis pas au courant de tout, hein, parce que moi aussi, j'ai des enfants, là, chacun notre vie, on est occupés, puis je sais qu'il y a plein de choses qu'elle va dire aujourd'hui que je ne suis pas nécessairement au courant, fait que ça va me permettre de découvrir un petit peu là, son quotidien davantage. J'ai une grande admiration déjà pour ce qu'elle fait, c'est sûr que je la suis dans sa page Facebook, tout ce qu'elle fait avec ses enfants, c'est extraordinaire. Mais je sais aussi qu'il y a des moins bons côtés. Aujourd'hui, on ne vous lancera pas tout le paysage de licorne. Puis, tu sais, on n'est pas, on sera pas là-dedans au complet. Je pense que Marc-Claude va nous dire vraiment les vraies choses. Marc-Claude, c'est pas le genre de personne qui va dire que tout est beau tout le temps, là. Fait que...
Mais c'est ce qu'on veut entendre, hein, dans notre podcast, de toute façon, dans nos épisodes.
Exactement, on veut les vraies affaires. Puis, ben Annie, je pense que ça va peut-être t'amener à des réflexions, tout ça. Puis, c'est ça, on s'en reparlera peut-être lors d'un prochain épisode, là, ta réflexion, parce que je sais qu'on s'en est déjà parlé, que tu as déjà pensé peut-être à faire l'école à la maison pour tes enfants. Donc, peut-être à suivre, hein?
Ben oui, à suivre. Puis tu sais, c'est quelque chose que moi, je trouve ça tellement... je trouve ça super wow, dans le fond, d'avoir le guts de changer les choses puis de faire l'école à la maison. On s'en est déjà parlé, hein? Moi, j'ai démissionné, dans le fond, de la commission scolaire parce que c'était un milieu qui ne me convenait pas. Je sens des fois que mes enfants ne sont pas nécessairement bien dans ce milieu-là. Fait que certainement que ça va me porter à réflexion. De là à le faire, on s'en reparlera dans le prochain épisode. Mais dis-moi, Marc-Claude, premièrement, tes enfants, toi, ils ont quel âge?
Ben moi, j'ai quatre enfants. J'ai une grande fille de 10 ans, un garçon de 8 ans, un autre garçon de 6 ans, puis une petite fille de 4 ans. Fait que, en tout, là, je dirais là, ils ont 5 ans de différence là, entre le premier, là là. Entre la première et la dernière. Ouais.
Wow! Alors, est-ce qu'on commence avec la première question qui est au niveau du parcours professionnel? Est-ce que tu as envie? Vas-y, Cathy!
Oui, bien, c'est ça. Dans le fond, je pense que ça serait intéressant là, de savoir... tu sais, moi, j'aimerais savoir tes débuts, hein, parce qu'on sait que, bon, tu as un bac en enseignement. Fait que j'aimerais savoir, à partir un peu de ce moment-là, un peu l'évolution, comment s'est faite l'évolution au niveau professionnel, parce que je pense que c'est un peu ça qui t'a amené à faire les réflexions un coup tu as eu des enfants, à peut-être vouloir justement faire l'école à la maison. Fait que j'aimerais que tu partes un petit peu de ce point-là. Puis écoute, on va voyager avec toi là-dedans. Fait que,
oui. Bien, en fait, c'est ça. Moi, j'ai fini mon bac à l'UQTR en enseignement au primaire. Puis, quand j'étais tellement passionnée par l'enseignement que je voulais enseigner tout de suite. T'sais, je voulais vraiment ma classe là, le lendemain là, d'avoir eu mon diplôme. C'était pas le cas, surtout à Trois-Rivières. Écoute, les listes de suppléances, là, c'était à l'infini. Donc, j'ai su par ma tante qui habitait dans les Laurentides qu'il y avait vraiment une pénurie d'enseignants là-bas. Puis, écoutez, j'ai comme suivi l'élan de mon cœur. J'avais comme vraiment envie d'aller explorer ce milieu-là. Puis, je me suis lancée. Ma tante, elle m'a accueillie pendant une semaine. J'étais allée tenter le terrain pour me rendre compte que vraiment, là, il manquait. Je pouvais avoir un contrat là, dès la première journée où j'ai fait une suppléance. Donc, finalement, j'ai décidé de déménager là-bas. J'ai habité 3 ans dans les Laurentides, là, dans la région de Mont-Tremblant. Et puis, j'ai eu là, des classes là, de tous les niveaux. J'ai travaillé dans des classes multiniveaux, surtout dans les milieux défavorisés. Je choisissais tout le temps les endroits où que les gens, les enseignants ne voulaient pas enseigner. Donc, ça a été vraiment des milieux difficiles, mais tellement profitables pour ma carrière d'enseignante. Donc, c'est ça. Donc, fait que pendant 3 ans, c'est là que j'ai enseigné. Puis, imaginez-vous donc, j'habitais avec une coloc. Puis, un matin, elle m'arrive, elle dit, Marie-Claude, elle dit, regarde, j'ai trouvé une annonce dans le journal. Il y a une offre d'emploi. Il demande une enseignante pour aller au Nunavut, tout ça. Puis, je dis, ah, oh, ouais, tu vas aller là-bas au Nunavut? Elle dit, bien, je pense que oui. Elle dit, voudrais-tu m'aider? Elle dit, je sais que tu es bonne, toi, pour faire les curriculums vitae, tout ça. Fait que là, je dis, OK. Fait que là, je l'aide. Puis là, elle avait accroché son petit papier de journal sur son frigo, tu sais. Fait qu'à chaque matin, tu sais, je l'avais aidé tout ça dans son curriculum. Puis là, à chaque matin, je voyais l'annonce, puis je me disais, « Ah, serais-tu capable de faire ça, moi, tu sais, aller au Nunavut comme ça, tu sais, à l'enseigner? » Puis là, j'en parle avec ma coloc, elle dit, « Ben, envoie toi aussi ton curriculum, putain, tu sais. » Elle dit, « Ça va être drôle, tu sais. » Dans le fond, elle pensait jamais être prise, tu sais, parce que habituellement, pour ces offres d'emploi-là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de Canadiens qui veulent aller enseigner au Nunavut. Donc, elle s'était dit, tu sais, on va l'essayer, mais tu sais, c'était comme une blague, en fait. Fait qu'on l'envoie tous les deux, notre curriculum vitae. La semaine, plusieurs mois plus tard, on reçoit une invitation pour passer l'entrevue. Fait que chacun de notre bord, on passe l'entrevue. Et puis, quelques jours plus tard, qui reçoit pas l'appel? Moi! Alors là, écoute, moi, j'avais fait aucune recherche. Puis, j'avais aucune idée de ça, dans quoi je me lançais, là. Puis, j'ai fait mes bagages. Je venais de signer, là, pour un autre bail, en plus, tu sais. C'était complètement éclaté, mon histoire. Puis, j'ai décidé d'aller là-bas. Fait que j'ai été enseignante en maternelle dans une petite école francophone, en milieu minoritaire. C'est vraiment sur une île, là. C'est l'île de Baffin. C'est la capitale du Nunavut, Iqaluit. Puis, je suis partie là-bas avec, écoute, mes grosses valises de livres, là, parce que, tu sais, mes livres d'enseignante, puis un petit peu de vêtements. Puis, je suis partie là-bas pour aller vivre cette expérience-là. Puis, au-delà de ce que j'aurais pensé, au niveau de ma carrière d'enseignante, puis, tu sais, c'est ça que je veux amener, c'est que, tu sais, oui, je fais l'école à la maison, mais ça a été un point tournant dans ma carrière parce que j'ai réalisé que l'école où j'avais appris à enseigner, il n'y avait pas rien que ça dans la vie. Que le fait de s'ouvrir à différentes écoles, différents milieux, différentes cultures, tu sais, les filles, il y a autre chose que qu'est-ce qu'on vit dans notre quotidien. Quand on s'ouvre à la diversité, on se rend compte qu'il y a des choses différentes et que ça peut nous apporter quelque chose de bon. Donc, quand je suis allée là, bien, j'étais complètement dans la culture inuite. Puis, dans la culture inuite, les valeurs sont complètement différentes. La place de l'école n'est pas pareille comme au Québec. Hein? Et quand on part chasser, c'est une histoire de famille. L'école, elle passe au second plan. Au niveau de la ponctualité, c'est pas ça qui est important. L'enfant peut arriver plus tard, pour eux, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai dû faire face à des conflits de valeurs, tu sais, en tant qu'enseignante, des choses qui me dérangeaient. Mais au plus profond de moi-même, j'ai évolué là-dedans parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas des valeurs si importantes au bout du compte, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que j'ai passé une année là. Et puis là, ben, tu sais, moi, ma vie, c'est comme ça. C'est tout le temps des surprises et des surprises. Hein, Cathy?
Ah ouais, Marc-Claude, ça a tout le temps été rien de vraiment planifié, hein? Puis même que ça me fait tout le temps rire parce que quand Marie-Claude elle a dit qu'elle voulait une grosse famille, puis ça, je dis « Ben voyons, t'es tellement pas organisée! T'es tellement tout le temps des surprises, tes affaires! » Mais bon, elle a évolué là-dedans, puis s'il y en a une qui se débrouille très bien avec ses affaires, c'est bien elle. Mais oui, sa vie, ça a tout le temps été « Ok, ben voyons, j'embarque dans l'armée. Ah, ok, elle y va! Ok, je m'en vais au Nunavut. Ah, ok, elle y va! » Tu sais, fait que c'est tout le temps comme « Je veux ça, j'ai telle idée, mais c'est tout le temps une surprise, c'est tout le temps surprenant un peu. Puis des fois, c'est des choses dans lesquelles on se dit « Ah, mais il me semble que je la vois pas là-dedans. » Puis au final, c'est comme si sa voie était tracée pour aller dans cette direction. Puis qu'elle, c'était comme, elle a eu un appel, puis elle l'écoute, puis elle y va.
Ben, il y a aussi, Annie, que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que moi, j'étais une célibataire endurcie avant d'être une aboute. Hein? Et puis, tu sais, j'avais 27 ans à peu près. Puis là, dans ma vie, j'avais accepté de ne pas avoir d'enfant puis pas de mari de ma vie. Fait que je m'étais enseigner aux enfants du monde entier. Fait que là, moi, je m'étais dit, je vais commencer par le Nunavut, puis après, je m'en vais au Vietnam. Puis là, je suis avec ma soeur, elle habite en Colombie-Britannique. Je vais aller en Colombie-Britannique. Je vais aller, regarde, j'aurai pas d'enfants, mais je vais enseigner aux enfants du monde. C'était ça, mon idée, tu sais. Puis, célibataire endurci veut dire que là, je croyais plus avoir l'amour. Mais là, je suis arrivée au Nunavut. Là, juste le fait que j'aille accepter ma situation, pouf! Je rencontre l'homme de ma vie.
Au Nunavut!
Au Nunavut! Alors, au-delà de toutes mes attentes, je rencontre le parfait pour moi. Et puis, lui qui avait un contrat plus long que le mien, moi, j'avais juste un contrat d'un an au Nunavut.
Ben, mais là, c'était un enseignant, lui aussi?
Pas du tout. Il travaillait à l'aéroport
de
Iqaluit, là. Il était là pour un contrat, lui aussi. Et puis, étant donné que son contrat était plus long, ben, j'ai décidé de rester une deuxième année avec lui. Okay? Donc, j'ai eu une belle expérience de 2 ans. Là. J'étais vraiment immergée dans le milieu. Ça a été parfait pour moi. Ensuite de ça, ben là c'est ça. Là, c'est le couple. Là, c'est plus la femme qui voulait explorer. J'ai laissé de côté mon désir de voyager qui était vraiment profond en moi. Pour vivre le couple, retourner, c'est-à-dire, on s'est construit une maison, hein, Cathy?
À Saint-Jérôme,
dans les Laurentides. Je suis retournée enseigner, puis écoute, pas longtemps après, on s'est dit, ah, là, j'avais 29 ans, go, là, c'est le temps de faire des enfants.
C'est ça, ouais. Fait que mariage, enfant.
Mariage, construction d'une maison, mariage, enfant, enseigner à travers tout ça. J'ai eu 3 enfants en l'espace de 3 ans. En enseignant aussi, en envoyant des enfants à garderie, tout ça. Ben, j'ai vécu là, le travail-famille, là, la conciliation, là, quand même assez...
T'as pas comme... été au Vietnam, mais tu l'as quand même vécu.
Ça ressemble à ça! Puis, voilà, donc, c'est ça. Fait que j'ai passé là, ces 3 années-là dans Laurentides. Puis, ben, ce que je vais apporter, c'est que là, avec l'expérience que j'avais apportée du Nunavut, le nouveau regard que j'avais sur l'enseignement. Tu sais, là-bas, ça travaillait beaucoup en équipe aussi, les enseignants. C'était des enseignants qui étaient de partout, hein, dans le Canada, même du monde. Donc, ces personnes-là, ils apportaient toute une couleur différente. Puis ça faisait que ça créait vraiment un bon climat. Donc, quand je suis revenue dans le milieu au Québec, j'ai réalisé que tu sais, tout le monde est distant, tout le monde travaille pour soi. Puis ça m'a vraiment... j'ai réalisé que je n'étais pas bien là-dedans. Mais je ne l'ai pas réalisé tout de suite, tu sais. Tu le vis, tu sais. Mais au bout du compte, ça m'essoufflait énormément. Puis là, en ayant beaucoup d'enfants, tu sais que là, j'avais beaucoup moins de temps pour préparer mes cours le matin. Tu sais, moi, j'étais le genre d'arriver à 6h30 le matin à l'école pour préparer ma classe. Puis je partais à 5h30 le soir, là, tu sais, parce que là, je voulais être sûre que tout soit prêt. Mais là, c'était plus possible avec les enfants, aller les chercher. Tu sais, je voulais pas qu'ils aillent au service de garde ni à la garderie, là. Donc, j'allais les chercher, tu sais, pour avoir le max de temps, là, avec eux. Puis, c'est ça. Donc, ça a été les 3 années. Ensuite, j'ai eu, avec mon conjoint, bien là, mon conjoint, il y a eu un transfert d'emploi qui s'est fait jusqu'en Ontario. Donc, j'ai déménagé là-bas. Puis, j'ai perdu ma permanence que j'avais finalement acquise dans les Laurentides pour pouvoir recommencer à zéro, c'est-à-dire à titre de suppléance en Ontario. J'avais 3 enfants à ce moment-là. Puis, là, c'est là que les questions se sont posées.
Mm-hmm.
Ouais, voilà. Vas-y, Annie.
Puis t'as vécu ça comment, tu sais, le fait que, ben là, tu te retrouves avec 3 enfants, là, on doit changer de place, parce que, tu sais, t'as l'air d'une fille qui s'adapte à peu près bien partout, mais de perdre une permanence dans ta passion qui est l'enseignement, tu vis ça comment exactement?
Ouais. Bien, à ce moment-là, quand j'enseignais là-bas dans les Laurentides, là, la dernière année, là, avant que je déménage, j'en avais parlé avec mon conjoint. J'avais dit que je n'étais pas bien. Tu sais, j'étais convaincue de la façon que j'enseignais, c'était la bonne, parce que j'avais tout le temps été un mouton rose, moi, dans l'école. Tu sais, j'avais des idées, mais mes idées disaient, bien, voyons, Marie-Claude, c'est pas possible. Tu sais, j'essayais d'être différente, puis d'y aller par projet. C'est vraiment d'aller au centre de l'enfant, là, d'arrêter d'avoir les pupitres dans les classes, d'arrêter, je voulais changer les choses, d'aller dehors, y aller avec des projets de jardin, mais il y avait toujours des personnes pour me rendre, ben voyons Marc-Claude, on a pas assez d'argent, ben voyons Marc-Claude, il n'y a pas si. C'était tout le temps impossible, puis vraiment, j'avais l'impression de me refermer comme ça dans une coquille. Puis quand on a eu à déménager, on dirait que je m'étais dit, de toute façon, je le sais que je ne resterai pas là. J'avais comme un sentiment qui me disait, je sais qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Puis j'étais prête à mettre en jeu ma carrière d'enseignante. Je ne sais pas pourquoi, mais comme Katia l'a dit tantôt, ma vie, ça a toujours été ça. J'ai toujours suivi les chemins. Fait, je m'étais dit, regarde, mon mari, il doit changer d'emploi. C'est peut-être le moment pour qu'il se passe d'autres choses pour moi.
Mm-hmm.
Ouais.
Parfait. Puis qu'est-ce qui t'a... Puis là, ça a été quoi le déclic, là, justement, là, au niveau de... Parce que là, tes enfants, quand tu es arrivée en Ontario, tu en avais une qui était d'âge maternelle, si je ne me trompe pas, Elisabeth?
Oui, il y en a une qui a commencé la maternelle. Fait qu'elle a commencé sa maternelle 4 ans en Ontario, c'est encore plus tôt, là. Puis elle, dans le fond, si elle avait été au Québec, elle ne commençait pas l'école tout de suite, là. Mais en Ontario, c'était vraiment la maternelle, ensuite le jardin, et on commence le parcours primaire. Elle a commencé l'école. Puis là, je me questionnais, est-ce que je vais faire de la suppléance? T'sais? Fait que là, j'avais été engagée par le système ontarien, tout ça. Là, tous les échanges de documents, c'était très bien fait. Et puis là, je me voyais, je dis, bon, est-ce que je commence la suppléance? J'envoie 3 enfants là, à garderie familiale. Hey, ça n'avait pas d'allure, 3 enfants du même coup, là, parce que là, j'ai eu ma petite dernière en Ontario. C'est la seule qui est ontarienne, vraiment. Puis là, j'ai dit, est-ce que je prends vraiment, est-ce que je plonge là-dedans, là, d'aller travailler, d'en envoyer 3? Puis là-bas, il n'y a aucune subvention. Là,
ouais,
tu payes le plein prix, là. Fait que je me suis dit, non, j'avais vraiment l'intention de rester. Puis là-bas, en Ontario, les femmes, ils restent à la maison, là, souvent, là, jusqu'à temps que leur enfant, c'est quand même usuel, c'est fréquent. Tandis qu'au Québec, c'est moins fréquent. C'est ce que j'ai réalisé, là. Puis, ben là, il était venu, tu sais, c'est ça, sur mon chemin, s'est présenté une personne qui faisait l'école à la maison, puis elle s'est mise à me parler de ça, que ça existait, surtout en Ontario, c'est très fréquent. Et puis, quand je l'ai entendu me parler de ça, écoutez, les filles, là, au début, j'ai dit, « Hey, jamais je ferais ça, jamais aller faire l'école à la maison. » Là, je me voyais avec les petits pupitres dans ma maison, puis là, gérer l'horaire, puis que je sois tout le temps avec mes enfants, non, non. Mais la fille curieuse à moi s'est dit, ben peut-être que je pourrais finalement, tu sais. Écoute, tu sais, j'ai dit, dans mon parcours professionnel, faudrait que je l'essaye au moins une fois.
Aïe,
entre-temps, j'avais ma fille qui était à la maternelle, qui vivait des difficultés. Puis à la fin de l'année scolaire, tu sais, c'est ça, là, la motivation était moins là. Puis j'avais posé la question, j'ai dit, si je faisais l'école à la maison, tu sais, si c'était moi ton professeur, t'aimerais-tu ça? Oui, maman! Tu sais, fait que là, j'ai dit OK, tu sais, parce que là, pour moi, c'est important que tu sais, mes enfants, ils veulent tu sais, être avec moi.
Oui. Clairement!
Fait que ça a pris un gros 6 mois, puis j'exagère pas, un gros 6 mois de réflexion, de parler avec mon conjoint à tous les soirs, les pour, les contre. Et j'avais fait des listes, là, les pour, les contre, à savoir qu'est-ce que j'étais pour faire, est-ce qu'on rentre dans cette aventure-là. Puis mon mari m'avait toujours dit, Marc-Claude est une aventurière. Marc-Claude a juste une vie à vivre. Pourquoi on ne l'essaye pas? T'es enseignante, t'as rien à perdre. Puis c'est quand j'ai eu son OK et son raisonnement si simple que j'ai dit, ben go, on y va. Fait que c'est comme ça, les filles, qu'on a pris la décision d'embarquer dans cette aventure-là.
Wow! Hey, c'est, ouais. c'est quelque chose, hein, Annie.
Mais là, moi, j'ai hâte de t'entendre parler du reste parce que.
Oui, puis je veux savoir, c'est comment tu. Toi, c'est quoi ta. Est-ce que ta vision première de ce que tu allais faire était la bonne finalement ou tu as dû faire beaucoup d'ajustements? Puis j'aimerais vraiment comprendre ta méthode de fonctionnement finalement que tu as choisie.
Parce que là,
t'avais l'idée d'avoir des petits pupitres dans la maison, là, mais clairement, c'est pas ça que t'as fait, là.
Ben, écoutez, les filles, au début, là, c'est ridicule comme ça, c'est que dès que je voyais l'autobus le matin passé qui venait pas chercher ma fille, finalement, là, je me disais, OK, là, c'est l'heure de commencer. Il est 8h30, là, il commence à l'école, il faut que je commence. Mais là, moi, j'avais 4 enfants, une fille de à peine 6 ans, et on descend, là, jusqu'à 2 ans, là. Puis là, OK, là, il faut que je commence. Bon, là, j'avais déjà planifié mes pages d'activités, des ateliers déjà tout prêts. Puis presque un petit pupitre, là, tu sais, pour ma vie, pour faire comme à l'école. Et puis là, écoutez, les filles, je me suis désenchantée assez rapidement. Je me suis rendue compte que ça ne marchait pas du tout. Ma fille, de un, restait assise à faire des exercices, c'était vraiment pas son style d'apprentissage, OK? Il y a certains enfants, puis c'est ça que j'ai compris au bout du compte, c'est que les filles, vous, t'sais, vous êtes allées à l'école, vous autres aussi, vous avez vu, puis vous autres en tant qu'apprenants, t'sais, vous avez vu qu'il y a dans une classe, il y a des élèves qui écoutent bien, puis qui sont bien dans une classe, sont contents d'être là, écoute, ils font les exercices, ils aiment ça travailler, ils aiment la structure, puis l'environnement est parfait pour eux. Mais il y a les élèves qui sont doués, qu'eux autres, ils savent déjà tout ce que l'enseignant va leur apprendre durant la journée, OK? Puis, ils vont complètement perdre leur temps. Pour eux autres, ça va être plate, puis c'est eux autres qui vont déranger au bout du compte, OK? Mm-hmm. Puis, tu as les enfants qui sont en difficulté, qu'eux autres, tout ce que l'enseignant dit, sont dans la lune, puis ils ne comprennent rien, OK? Donc, toute la journée, ils vont passer leur temps à essayer d'apprendre, mais leur cerveau va travailler, mais au bout du compte, ça ne sert quasiment à rien. Fait que ce milieu-là non plus, il n'est pas adapté pour eux. OK? Donc, moi, quand j'enseigne comme ça avec mes enfants, ce que je me suis rendu compte au bout de mon expérience, c'est que chaque enfant apprend différemment. Puis que d'être à la maison comme ça, c'est un luxe. Je ne devrais pas amener l'école dans ma maison parce que mon enfant, je le compare à personne d'autre qu'à lui-même. OK? S'il apprend, là, je vais dire des choses qui vont peut-être choquer certaines personnes parce qu'on n'est pas habitué d'entendre ça. On est habitué qu'un enfant... qui apprend à lire, il apprend à lire en première année, pas en deuxième année. S'il apprend en deuxième année, c'est parce qu'il y a une difficulté d'apprentissage puis un retard. OK? Mais quand on fait l'école à la maison puis qu'on prend le temps de l'écouter, notre enfant, OK? C'est normal que... Ça veut pas dire que c'est 3 mois plus tard qu'il va apprendre à lire que les autres, ou même 1 an plus tard, que quand il va être adulte, il lira pas. OK? Faut laisser...
Ça y est, je t'en amour.
OK?
C'est en amour.
C'est un espace à l'enfant pour apprendre à son rythme.
Okay? Exactement.
Puis, il y a un autre point, les filles. Il faut parler de quelque chose là, d'important. Là.
On t'écoute, Marie. On a comme les deux, je pense, moi puis Annie, on a des frissons puis on a les yeux pleins d'eau. Là.
C'est parce que j'ai des messages à passer parce qu'il y a des points comme ça qui sont si importants. Tu sais, quand je dis qu'il ne faut pas comparer l'enfant apprend vraiment à son rythme. Il faut y penser. Puis en tant que parent, même quand nos enfants vont à l'école, quand on regarde les bulletins, dites-vous, si mon enfant il avait eu 3 mois de plus, peut-être qu'il l'aurait eu sa note de A. OK? Puis nous, on crée cette pression-là à nos enfants. Donc, moi, c'est ça que ça m'a amené l'apprentissage en famille. C'est qu'on laisse l'espace. Puis je ne cacherai pas, aujourd'hui, j'ai une fille qui a appris à lire à 7 ans et demi. Puis aujourd'hui, elle a 10 ans, puis elle lit énormément. Mais la lecture n'est pas une tâche pour elle. C'est une passion, c'est un passe-temps. Jamais je l'ai obligée à faire de la lecture à haute voix. On a toujours lu dans le plaisir. On a toujours lu ensemble. On a lu à deux.
Avec des livres pour lesquels elle avait un intérêt.
OK? Oui, vas-y, ma belle Annie.
Puis tu sais, ça me fait vraiment vibrer ce que tu es en train de transmettre parce que... Puis là, on s'entend, là, hein? On fait pas la conspiration contre le système scolaire, là, hein? Faut bien s'entendre là-dessus. Il y a des enfants qui fit très, très bien au niveau de la commission scolaire, puis il y a des parents pour qui c'est très correct qu'on envoie les enfants à la commission scolaire. Mais moi, je suis un petit peu... j'ai la même pensée que toi parce que avec l'intervention familiale que je fais au courant, que j'ai faite au courant de ma vie, j'ai l'impression que l'enfant qui ne fit pas dans le moule, c'est l'enfant dérangeant, alors que non, ça n'a aucun... C'est juste une autre vision. On a besoin de lui apprendre quelque chose. Puis, tu sais, ça me parle super gros parce que j'ai mon grand, moi, qui apprend tellement différemment. Il est hyper intelligent. Tantôt, tu parlais des enfants qui vivent la douance. Puis je me questionne à savoir si mon enfant serait pas à haut potentiel parce qu'il y a des comportements qui vont dans ce sens-là. Mais mon garçon, il y a de la difficulté au niveau social à l'école justement à cause de ça. Mais comment promouvoir ça dans un cadre hyper strict, hyper serré où il peut pas explorer tout ça? Puis là, c'est là que ça me rend triste puis que je pense que peut-être qu'un jour, tu vas me convertir à l'école à la maison. Mais tu sais, c'est depuis quelques années que j'y pense. Sauf qu'en même temps, tu sais, comment savoir si j'ai les ressources nécessaires, tu sais, pour faire tout ça? Je travaille, moi, à temps plein aussi, là. Fait que, tu sais, c'est tous des questionnements qui sont hyper difficiles, mais je suis vraiment... moi aussi, je pense que de respecter l'essence de l'enfant, hein, on y va chacun à notre rythme, je pense que c'est hyper bénéfique, là, pour l'enfant, là.
Oui, puis... Écoute, quand on enseigne à un enfant, on est un guide d'abord et avant tout. On est là pour le soutenir dans ce qu'il veut apprendre. L'enfant est curieux de nature. Il va lui poser ses questions. Quand tantôt, je voulais ajouter, mon enfant de 8 ans, là, mon garçon, il ne lit pas encore aisément. Okay? Il y a 8 ans, là, les gens vont me dire « Oh mon Dieu! » Mais il aime lire! Il aime essayer! T'sais, pour lui, la lecture, c'est plus difficile. Mais à un moment donné, j'ai confiance, je sais qu'il va débloquer parce qu'il aime lire. Et puis, on fait vraiment attention aussi, quand on fait attention à c'est quoi le talent de ton enfant. Je voulais parler de ça, c'est très important. C'est que souvent à l'école, on va essayer d'aller améliorer les zones qui sont les plus difficiles chez l'enfant. Par exemple, tu as vraiment des difficultés en mathématiques, bien, on va te mettre l'orthopédagogue, puis on va foncer pour que tu sois au même niveau que les autres. Moi, je ne le vois pas comme ça, Annie et Cathy. Je me dis, ce qu'on devrait faire, c'est plutôt d'y aller avec les talents des enfants.
Exactement.
Ça, dans quoi sont bons. Si l'enfant, il est bon en science, là, puis qu'on lui donne tout ce qu'il veut, puis qu'il veut en apprendre sur les sciences, crois-moi, il va en lire des textes scientifiques, puis il va apprendre à lire avec ces textes scientifiques-là. Crois-moi qu'il va en faire des calculs mathématiques, parce que pour faire sa passion des sciences, il a besoin de faire des mathématiques, puis tout va se faire sans qu'on s'en rende compte. OK? Donc, c'est pas d'aller chercher ça dans quoi on n'est pas bon. C'est plutôt d'améliorer et de promouvoir nos dons puis nos talents, selon moi. C'est ça le plus important. Vous allez me dire, les filles, sûrement il y a de quoi il y a quelque chose dans lequel vous n'étiez pas bonne quand vous étiez jeune. Puis posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes plus bonne dedans?
Pas non. Nécessairement. Hein? Pas du tout.
Exactement. Moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas bonne en maths. Puis aujourd'hui, je suis toujours pas bonne en maths. Mais si à un moment donné, l'avenir me demande à être bonne en mathématiques, je vais aller chercher les outils, puis probablement que étant donné que j'ai une motivation pour pouvoir apprendre les mathématiques, je vais les apprendre rapidement. Tu comprends? Je vais te donner un exemple. Présentement, j'écris un livre. Quand j'étais jeune, j'étais poche en écriture. J'étais tellement pas bonne. Demande-moi pas d'écrire, là. J'avais vraiment de la difficulté. Mais aujourd'hui, parce que j'ai envie d'écrire, parce que la motivation est là, je vais chercher les outils. Les outils sont partout autour de nous. Si on a véritablement envie d'apprendre, on a tout autour de nous pour le faire.
Puis pourquoi presser les enfants, tu sais, dans le fond? Tu parles des mathématiques. Moi, les mathématiques, ma mère est commis comptable, puis sérieux, des fois, elle me parle des chiffres, puis je suis comme, ah, OK, man, là, c'est correct, là, regarde-moi la comptabilité, là, je veux rien savoir de ça, mais elle est hyper passionnée, là. Ouais. Hey, tel, dans ses tableaux Excel, puis tout ça, mais moi, là, arc, moi, c'est l'humain. J'aime l'humain, j'ai tout le temps été à l'humain, puis je performais en communication sociale à l'école. J'étais impliquée dans tout plein de choses. J'étais vice-présidente de mon école. Moi, je tripais là-dedans. Puis finalement, ben, mon métier, ça se ressemble pas mal, là.
Mm-hmm.
Ouais. Fait que, tu sais, ah ouais, respecter là, l'essence de l'enfance, là, c'est vraiment un point là, que...
Ouais, c'est
là, là.
C'est vraiment un point majeur, je trouve, tout à fait. Puis, par rapport un petit peu à ce que tu viens de dire, Marc-Claude, est-ce que, justement, tu penses que l'école à la maison, c'est accessible pour tous les enfants, mais aussi accessible pour toutes les familles? Est-ce que il y a des façons de faire? En tout cas, j'aimerais vraiment t'entendre là, sur ce sujet-là, parce que c'est sûr qu'après l'émission d'aujourd'hui, on va recevoir des questions. Tu vas recevoir des questions. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Est-ce que c'est accessible à toutes les familles ou pour tous les enfants?
Parce que toi, tu es enseignante aussi, là, Marc-Claude. Là. Est-ce que moi, qui n'ai pas le métier d'enseignante, est-ce que je pourrais faire l'école à la maison? T'sais, comment ça fonctionne?
Bien, moi, je vous dirais oui et non, OK? Ça dépend de plein de facteurs, OK? Je connais énormément de familles où la maman, c'est souvent la maman là, qui fait l'école à la maison. Il y a aussi des papas, mais c'est souvent la maman. Et puis, il y a beaucoup de mamans qui n'ont aucun diplôme en enseignement. Là. Il y en a, c'est des comptables, il y en a, c'est des psychologues. Écoute, c'est vraiment, ça ne veut pas dire que tu fais l'école à la maison, que tu dois être nécessairement enseignante. Pourquoi? Parce que pour faire l'enseignement à la maison, on vient d'en parler. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être professionnel dans tout? Est-ce qu'on est, un enseignant, est-ce qu'il faut vraiment qu'il sache tout pour aider un enfant à apprendre? Non, parce que si je parlais de mon quotidien, les filles, là, on n'en a pas bien parlé, là, mais à quoi ressemble une journée, moi, selon vous, là? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout le bagage d'enseignante que j'ai pour que mes enfants apprennent? OK? Mm-hmm,
ouais.
Ça, c'est important à se poser cette question-là.
Oui, bien peut-être on pourra, justement, là, j'aimerais ça tantôt que tu nous fasses une journée un peu typique, d'une activité typique qui permettrait de nous aider à mieux comprendre justement dans telle activité, hein, qu'est-ce que tes enfants ont appris sans être assis à leur bureau.
Oui, mais c'est ça. Donc, tu sais, il y a toute la routine que c'est accessible à tous c'est accessible à tout le monde. Ça dépend de ta disponibilité. Si tu travailles en télétravail à tous les jours, puis que pour toi, tu as quand même une disponibilité pour les enfants. Parce que moi, chez moi, j'ai le temps de faire des choses là, pendant que les enfants jouent quand même là, aujourd'hui. Parce que j'ai évolué dans ma façon de faire l'enseignement à la maison. Si tu as du temps, puis que tu es patient, puis que tu as cette flamme-là de vouloir, de prendre le temps de montrer des choses à tes enfants, c'est pas obligatoirement le jour que tu peux le faire. Ça peut être le soir. Mm-hmm. Chez moi, les apprentissages se font vraiment le soir. Je ne sais pas pourquoi, mais les questions fusent le soir. C'est en se couchant qu'on apprend à lire. Des fois, c'est après le souper que les enfants, tout d'un coup, ils ont envie de faire du cahier. OK? Alors, ça ne veut pas dire que ça devrait être entre 8h et 4h qu'on devrait apprendre. Et chez nous, ce n'est pas parce que c'est la fin de semaine qu'on n'apprend pas. OK? Ce n'est pas parce que c'est le congé du temps des fêtes qu'on n'apprend pas. Si l'enfant me pose la question pourquoi il y a des étoiles dans le ciel? À quoi qu'ils servent? C'est quoi des étoiles? Je ne dirais pas, ben non, c'est la fin de semaine, ça va être entre 8h et 4h lundi que je vais te répondre pendant ton cours de science. Les apprentissages sont partout. Donc, c'est possible pour les parents qui travaillent aussi, selon moi, de pouvoir faire l'école à la maison parce que, comme je vous dis, si tu as cette, comment je pourrais dire, cette disponibilité-là pour tes enfants, au quotidien, à tout moment, c'est possible. Par contre, si tu as un passé d'élève ou que tu as appris dans les cahiers avec ton pupitre, justement, pour toi, les examens, les évaluations, les attentes doivent être là pour les enfants, puis que tu veux vraiment t'assurer de la réussite de ton enfant, bien là, c'est sûr que tu te mets une pression, puis que là, tu vas vouloir te mettre un horaire, puis que ton horaire, tu vas vouloir le suivre, puis que là, tu vas être exigeant envers tes enfants, puis peut-être que tes enfants n'aimeront pas ton horaire.
Ça, tu l'as essayé, hein, toi?
Je l'ai essayé, puis je me suis rendu compte que j'étais pas bien là-dedans, puis les enfants non plus. Moi, des fois, j'apportais des activités déjà toutes prêtes, faites sur Pinterest, tu sais. Puis les enfants les aimaient pas, puis là, j'étais frustrée. J'ai dit, ils aiment même pas mon activité, j'ai mis 2 heures là-dessus à la préparer. Mais eux autres, c'était pas ça qu'ils voulaient. Eux autres, ils voulaient faire leur jeu de rôle. leur jeu de rôle où ils apprennent à s'exprimer, puis que moi, j'acceptais pas ça. Moi, jouer, c'était pas apprendre. Il aimait mieux jouer aux cartes, jouer à faire des jeux de société. Puis à ce moment-là, j'avais pas compris qu'en faisant des jeux de société, tu pouvais apprendre les mathématiques, tu pouvais apprendre à lire, puis que tu pouvais apprendre des sciences puis de l'histoire aussi. Tu sais? Fait que, hein?
Ah oui, vrai.
Capoté.
Donc, oui, je pense que si tu as du plaisir et que tout le monde est d'accord dans la famille pour faire à l'école à la maison, c'est possible. S'il y a une personne qui n'est pas d'accord, surtout dans le couple, s'il y a une personne qui n'est pas d'accord, c'est sûr que ça va amener des discordes. Je ne dis pas que c'est impossible, mais le climat familial va être plus lourd et ça va être beaucoup plus difficile. Aussi, n'oubliez pas que dans le couple, tu as la femme puis t'as l'homme, qui ont tous les deux un passé, qui ont tous les deux une façon différente d'apprendre. Alors, pour eux autres, ils peuvent avoir des valeurs importantes, puis ça ne concordera peut-être pas non plus dans la façon qu'ils vont vouloir enseigner à leurs enfants. Donc, c'est vraiment un gros consensus familial qu'on doit faire ensemble pour pouvoir être certain qu'on prend la bonne décision. Et la première personne à qui on devrait demander, c'est à l'enfant. Si ben l'enfant est bien à l'école, laissez-le à l'école, s'il vous plaît. Je le dirai tout le temps, l'école elle a sa raison d'être. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Okay? Il y a énormément de choses, selon moi, à changer. Là, mais elle est là, puis est importante pour certains enfants aussi. Mais si votre enfant n'est pas bien et qu'il a envie de faire l'école à la maison, ben c'est peut-être votre chance si vous pensez avoir du plaisir. Si dans le quotidien, vous n'avez plus de plaisir à le faire, c'est parce que votre objectif n'est pas atteint. Mm-hmm. Vous devez avoir un objectif. T'sais, n'oubliez pas, vous avez votre mission professionnelle de vie aussi, parce que la majorité, là, ces temps-ci, la popularité va vers l'école à la maison, mais en travaillant en même temps. Mais si toi, tu as la mission de vie de faire, par exemple, toi, Cathy, hein, mm-hmm. tu es accompagnante à la naissance, c'est une passion pour toi. Tu ne peux pas laisser ça de côté au profit. C'est important, tu sais, d'être là comme femme aussi, d'être présente là, au point de vue professionnel aussi, puis d'être capable de jumeler ça les deux, tu sais, puis d'avoir du plaisir à faire les deux, tu sais, fait que c'est ça.
Ben écoute, puis, mais là, on parle là de l'apprentissage à la maison, puis, tu sais, j'adore le concept de laisser vivre l'enfant, puis de faire les apprentissages le soir quand l'enfant est très, très réceptif et tout ça, mais là, y a-tu des normes à respecter? Tu sais, comment ça fonctionne? Est-ce que, parce que là, toi, tu es en Ontario, hein, c'est différent du Québec, mais comment on fait pour évaluer notre enfant pour voir si finalement ses apprentissages sont pas à niveau, mais comment ça fonctionne tout ça?
Oui. En fait, en Ontario, on est complètement libre. On peut faire ce qu'on veut, on n'est pas surveillé du tout, OK? Par contre, au Québec, il y a des règles puis il y a des lois, puis on mettra, hein, Annie, le lien pour les parents qui veulent avoir plus d'informations. Il y a des bilans de mi-parcours, il y a un évaluateur qui vient à la maison pour voir l'évolution de l'enfant. Ils ont plus de paperasse administrative à faire, OK? Par contre, dans le quotidien, comment tu évalues ça, t'sais, ton enfant? Moi, présentement, je ne l'évalue pas. Parce que pour moi, je suis dans les apprentissages libres. Moi, là, je suis vraiment comme à l'opposé là, du système où j'ai appris à apprendre, dans le fond, là, de l'école normale, traditionnelle. Je suis beaucoup plus dans les apprentissages libres. Par contre, je me garde des traces. Je me garde des traces comme il y en a qui vont se faire des portfolios. Alors, à chaque fois qu'il va y avoir un apprentissage qui a été fait, soit dans les cahiers, soit à travers un projet, on va écrire ce qu'il a appris selon le curriculum. Alors, moi, ce que je suggère aux parents, c'est de prendre le programme de formation qui est disponible dans Internet. Là, vous allez voir sur le site du gouvernement du ministère de l'Éducation du Québec ou du ministère de l'Ontario pour ceux qui habitent en Ontario. Le programme, il est tout là, OK, pour chaque année d'apprentissage. Puis moi, ce que je suggère toujours aux parents, c'est de prendre le programme si, pour ceux qui aiment mieux être certains que leur enfant y réussisse. Ceux qui veulent être plus cadrés, structurés dans la façon d'apprendre. Alors, je leur suggère de cocher, de regarder, puis de juste cocher chaque compétence qui a été acquise. Alors, quand tu vois, tu dis, hey, ben là, mon enfant est capable de lire un journal tout seul. Bon, ben c'est fait, je coche. Mon enfant, il comprend le concept de fraction, simplifier les fractions, je coche. Alors, une fois que c'est fait, tu n'as pas nécessairement besoin de faire d'évaluation. Tu n'as pas besoin de savoir est-ce qu'il est bon au point où je donne 100% ou au point où je donne 70%. Ouais. Il a compris ou il n'a pas compris. Il a compris.
Est-ce que le fait de faire un examen va vraiment nous mettre en lumière qu'il a tout compris, non, dans le fond?
Exactement.
Hein? Tu sais, c'est ça quand même. Est-ce que de faire un examen sous pression, sous stress, reflète vraiment la réalité de ce qu'il est capable de faire au quotidien?
Exactement, c'est... parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, quand on passe un examen sous stress où on a appris tout par cœur, tu sais, dans le but d'obtenir la meilleure note possible, souvent, une semaine après, on ne s'en souvient même plus.
Non, exactement.
Donc, l'apprentissage n'est pas significatif. Donc, c'est ce que je suggère aux parents. Prenez des photos. Cochez au pire dans le programme d'éducation pour dire, OK, ça c'est fait, ça vous sécurise, ça sécurise vraiment les parents. C'est la meilleure façon, moi, je trouve. Voilà. Donc, moi, c'est sûr que, tu sais, j'ai des cahiers d'apprentissage. Là, il y en a qui disent, toi, tu es dans les apprentissages livres, tu ne dois pas avoir de cahiers. Je les ai, les cahiers, chez moi. Mais ils ne sont pas obligatoires. Des fois, on peut être 4 mois sans que personne touche au cahier. Puis là, tout d'un coup, il y en a un qui les voit. Puis là, il se met dedans. Puis là, il fait 30 pages en ligne pour me rendre compte qu'il connaît ses affaires.
Est-ce que c'est des cahiers qui sont fournis par le ministère? Ou
non.
C'est des...
non. Okay. On doit les acheter.
Okay.
C'est sûr, c'est moi qui les achète. Est-ce que le cahier le meilleur? Ça, je le dis tout de suite, il n'y en a aucun qui est parfait. OK? Un cahier d'apprentissage, ça va nous montrer certaines compétences qui sont acquises dans le programme. Mais la meilleure façon de voir si l'enfant a appris, c'est de l'amener dans la vie de tous les jours.
Oui.
Donc, les fractions, il peut l'apprendre dans le cahier, mais c'est encore plus facile si on cuisine, puis qu'en mesurant les tasses, on pratique les fractions, mais c'est là qu'on voit s'il a compris ou il n'a pas compris. N'oubliez pas, les cahiers sont faits pour le format scolaire. Le format scolaire dans la classe où il y a 4 murs, puis qu'on n'a pas accès à beaucoup de matériel, puis on le fait dans un cahier. Mais quand on est à la maison, on a accès à toutes ces belles choses-là qui sont gratuites puis qui sont autour de nous. On les fait dans la nature. C'est bien plus le fun d'apprendre sur le raton laveur quand on va dans la nature puis qu'on en découvre un comme ça. Puis que doucement, moi, en tant que guide avec l'enfant, je commence à expliquer, OK, c'est un omnivore, il mange un petit peu n'importe quoi. As-tu vu sa queue? Pourquoi il y a une grande queue comme ça? Puis l'enfant, il fait appel à ses 5 sens, puis l'apprentissage, il va s'en souvenir pour le reste de sa vie, là. C'est mm-hmm. dans un cahier, souvent, qu'on va... Tu sais, l'apprentissage va être autant significatif.
C'est drôle hein, que tu parles de l'apprentissage par la nature parce que justement, la semaine passée, j'ai tourné un autre épisode avec une de mes amies qui est intervenante aussi. Puis elle, là, l'apprentissage holistique là, dans sa famille, là, c'est vraiment quelque chose qu'elle prône. Puis là, elle est en train de semer des petites graines, dans le fond, dans les écoles, justement, comme intervenante pour faire l'apprentissage, dans le fond, de par d'autres méthodes pour tout ça. Puis écoute, je pense que je vais te la présenter, Marc-Claude, parce que je pense que ça finirait pas vos discussions ensemble. Elle est vraiment dans la même ligne de pensée que toi, là, là-dessus. Puis justement, on parlait de recettes, puis tout ça, à quel point, tu sais, ce serait... C'est vrai qu'on peut apprendre les fractions à nos enfants, tu sais, avec un quart de tasse, une demi, puis tout ça. Puis c'est des choses que... Ah, c'est ça que Rachel, elle disait, qu'on pense comme parents que c'est hyper compliqué à intégrer au quotidien, mais que pas du tout, finalement, tu sais.
Mmh. Tu sais, si je te parlais d'une activité non planifiée, hein, Cathy, oui, on s'en est parlé tantôt.
Oui, j'aimerais ça que... Ça va, exemple, là, toute la fin de semaine, hein, un dimanche matin, tu es avec ton chum, en famille, on lance une activité. Moi, j'aimerais savoir... Donne-nous un exemple d'une activité que tu ferais avec tes enfants et... par lequel tu leur apprendrais des maths, de la géo, de la science, pour savoir justement l'apprentissage libre, là, ça peut être quoi concrètement?
Écoute, les filles, l'autre fois, cet été, je suis partie, j'ai dit, bon, ben là, c'est l'heure, là, on voyage un peu, on s'en va explorer les enfants. Alors, on part sur une île pas loin d'Oxbury, puis je découvre, en faisant des recherches, je demande à ma fille, j'ai dit, trouve donc une place là où on pourrait avoir une exposition en nature, tu peux-tu me trouver ça? Fait que là, elle fait sa recherche. Mais là, en faisant sa recherche, il y a une compétence qui est là. Je ne nommerai pas toutes, mais il y a un apprentissage qui est effectué là. Alors, elle fait sa recherche. OK, maman, l'île du Chenail à Oxbury. Fait que là, on s'en va là-bas. Et puis, on part le matin, on prépare notre collation, notre dîner. Et on s'en va en van, puis on suit le chemin. Mais là, ma fille, elle me dit, maman, elle dit, j'aimerais ça que tu me dises les coordonnées, tout le trajet. Fait que j'y écris avant de partir toutes les... chaque direction pour se rendre à l'endroit. Donc, je l'écris, puis elle a fait la lecture. Fait que j'ai aucun GPS. Je fais confiance à ma fille qui est en arrière, puis qui me dit, tu t'en vas là, là, là. Mais c'était son idée. C'était pas la mienne, là. Alors, j'y ai tout écrit. Elle m'a tout dit les directions. On s'est rendu à la bonne place. Donc, il y avait une forme d'apprentissage de lecture là-dedans, là. Je lis un trajet pour se rendre à un endroit. C'est parfait. Puis, pendant ce temps-là, sur notre route, on découvre que là, il y a un de mes garçons, il me dit « Hey, maman, regarde, les nuages sont vraiment spéciaux. Ils sont beaux. Puis, c'est quoi ça, ces nuages-là? » Puis là, pour de fait, bon, ben là, j'insère. Ben, il y a les cumulus dans la vie, il y a les stratus, les cirrus. Puis là, on prend le temps, on s'arrête sur le bord du chemin, on les regarde, puis là, je leur montre la différence entre les nuages. J'ai pas de téléphone, hein, Annie? Ris pas de moi.
Je ris pas de toi, je te trouve tellement exceptionnelle de pas avoir de téléphone, justement, parce que je trouve tellement qu'on est pris avec ça à cette heure dans la vie. Mais, puis tu vois, je m'en allais dire, mettons, que tu le sais pas. C'est quoi cette sorte de nuage-là? Tu le cherches sur ton téléphone, mais toi, t'en as pas.
Oui, bien, j'aurais eu accès à un téléphone si je ne l'avais pas su, puis j'aurais fait ma recherche tout de suite. T'sais, ça aurait été facile de pouvoir répondre aux questions des enfants. Mais les questions sont là. Ils fusent tout le temps. Ils sont là tout le temps. Les enfants sont remplis de questions. C'est juste qu'on n'y porte pas attention, puis on ne prend pas le temps d'écouter. Mm-hmm. Cette fois-là, on parle de ça, on voit un feu. Pourquoi le monde, ils font des feux dans les champs? Tu sais, c'est de l'étude sociale, c'est de la géographie. On en voit partout. Puis là, on arrive là-bas, puis on prend le temps de dîner à côté d'une usine d'épuration d'eau. Ça puait, les égouts, là. Mais là, pourquoi ça existe, ça? Bien là, encore un autre apprentissage. Là, on était sur le bord d'une place où il y avait une descente de bateau. Puis là, comme de fait, il y a un monsieur qui passe avec son bateau. Il commence à tout le régler pour pouvoir le mettre à l'eau. Puis là, il y avait une espèce de gros treuil. Puis là, les enfants, c'est quoi ça? C'est un treuil. Puis là, commence à y expliquer c'est quoi la machine 5 du treuil. Mais, tu sais, vous voyez, ils les ont toutes vus live, ces apprentissages-là. Ouais. Puis jamais j'avais planifié ça. Puis même le monsieur, il dit, venez dans mon bateau, je vais vous le montrer. Hé, là, les enfants commencent à partir le treuil. Puis là, la petite de 4 ans qui dit, c'est comme ça, ça marche un treuil. Puis là, elle dit, papa, on a vu un treuil, tu sais. Mais c'est quoi maintenant un treuil? Tu sais, moi, en quatrième année, probablement, je ne l'aurais pas su, là. Tu sais, je veux dire, quand j'étais jeune, je n'avais jamais vu ça, un treuil, puis je n'aurais pas pu le nommer. Mais, tu sais, c'est ça, les apprentissages sont partout. Tu sais, il faut juste être, tu sais, découvrir ça, prendre le temps de regarder autour de nous, puis ça se fait naturellement.
Puis là, la question qui tue, parce que là, moi, j'ai envie de te la poser, mais je suis certaine que ça trotte dans la tête de plusieurs parents. Le social de tes enfants, ils ne voient pas d'amis à l'école, mais comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu fais pour entretenir leur vie sociale? Là, ils sont 4, par exemple, mais on s'entend que moi, étant maman de 4 enfants, mes enfants se tapent clairement sur les nerfs souvent. Puis, il y a de la chicane, puis bon, hein, on sait quoi, là?
Oui, bien, en fait, Annie, il existe beaucoup de groupes de soutien dans chaque région du Québec et aussi en Ontario. Alors, tu vas sur Facebook, tu tapes dans ta région, École Maison, Outaouais, École Maison, Mauricie, probablement. Tu vas trouver des groupes de soutien, énormément de familles qui font l'école à la maison. Puis, il y a des pages Facebook où chaque famille apporte son grain de sel. Il y a des femmes qui vont organiser des expos sciences dans des sous-sols d'église. Il y en a d'autres qui vont organiser des foires de jeunes entrepreneurs. Il y en a qui vont juste planifier des sorties au parc social, dans le parc du quartier. Il y en a d'autres qui vont, écoute, ça va à l'infini, des sorties au musée, des sorties à la gymnastique, au gymnase.
Avec tes enfants, ils voient plein d'autres enfants, là.
Ah oui!
Ils ne sont pas cloîtrés à la maison, là, pas du tout, là.
Oui, puis souvent, on va penser que le social de l'enfant doit être des enfants de son âge, alors que c'est totalement faux. Ça peut être des grands-parents. Le caissier ou la caissière de l'épicerie, ça, c'est du social. La personne qu'on va rencontrer en prenant une marche, une personne âgée, ça peut être un bébé. Ça peut, tu sais, d'avoir l'empathie pour un bébé. Tout ça, ça peut être des gens de tous les âges. Le social, il est vraiment présent. Tu sors de chez vous.
Tu rencontres des gens ultimement.
Tu rencontres des gens ultimement. Alors, là, c'est vraiment, je trouve ça intéressant que tu poses cette question-là parce que c'est la question qui fait le plus peur. Et je dois vous dire, pensez comme il faut. Être entre quatre murs d'une classe et que tu ne dois pas parler, que tu dois lever ta main pour parler, puis que le seul moment où tu peux parler avec tes amis, c'est à la récréation souvent, ou peut-être dans des travaux d'équipe, puis que des fois, ton ami n'est pas nécessairement dans ta classe. Alors, des fois, tu as le temps d'y parler là, à la récréation, des fois au dîner. Ce 30 minutes ou peut-être heure-là par journée, là, tu l'as encore plus à l'école, à la maison, quand tu t'en vas vraiment jouer au parc, quand tu découvres, tu l'as ton social. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter.
Wow! Wow! Puis tu sais, moi, c'est sûr que ça m'amène une certaine curiosité parce que là, on est dans un contexte spécial avec la pandémie et tout ça. Et bon, le prétexte qu'on nous lance aussi pour continuer, hein, nous, de les gens là, qui envoient nos enfants à l'école, bon, les enfants ont besoin de ce social-là, ils ont besoin hein, de l'école. Puis oui, comme tu l'as dit, c'est important. Donc, on envoie nos enfants à l'école pour avoir cette espèce de social-là. Mais là, actuellement, au niveau des écoles maison, on ne vous donne pas le droit d'avoir d'autres familles, hein, d'intégrer d'autres familles, de vous voir. Donc, comment tu le vis actuellement, ce côté-là? Parce que oui, comme tu dis, il y a des groupes donc, qui organisent énormément d'activités. Vous voyez entre vous, règle générale. Mais là, actuellement, tout ça est beaucoup moins disponible. Comment tu le sens, toi, actuellement, là, dans ta famille? Là, est-ce que tu vois une différence chez tes enfants ou même peut-être toi parce que tu avais l'opportunité de parler à d'autres adultes hein, à ce moment-là, d'autres femmes qui vivaient les mêmes choses que toi. Fait que là, comment ça se traduit là, actuellement?
Je vous dirais que présentement, c'est moi qui trouve ça le plus difficile, le manque de social. Là, quand j'étais avec les mamans, tu sais, quand on faisait les groupes de soutien, qu'on se rencontrait au parc, c'est incroyable tout ce que ça m'apportait, là, point de vue femme, là, de pouvoir se parler de nos idées, de parler de nos vies de famille. Ça me manque là, vraiment. Les enfants aussi, c'est pas pareil faire l'école à la maison. Je peux plus aller au musée, je peux plus aller, on peut plus faire nos expos sciences. On peut même plus aller vraiment au parc. T'sais, on peut y aller, mais c'est à nos risques. C'est pas toutes les familles qui sont à l'aise non plus d'aller au parc. C'est pas toutes les familles qui sont à l'aise de faire des bulles. Au Québec, je crois qu'on n'a pas le droit. En Ontario, c'est un certain nombre limité. Mais tu sais, encore là, si tu vois une famille, tu peux pas voir une autre. Puis c'est difficile parce que moi, j'ai 4 enfants d'âge différent. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes amis dans les mêmes familles. Fait que là, si je décide d'aller voir une famille, ben, je peux pas aller voir l'autre, tu sais, alors que ma fille, elle, son amie est dans l'autre famille. C'est vraiment difficile. C'est pour ça que je dis, ceux qui choisissent de faire l'école à la maison, présentement, les conditions ne sont vraiment pas idéales. C'est pas les conditions optimales pour le faire. Parce que c'est important. Je vous l'ai dit, les apprentissages sont partout. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça use de débrouillardise de notre part. Je dois aller dans la nature. J'essaie d'avoir des projets comme des magazines avec les enfants, puis d'y aller de façon virtuelle, mais je fais attention au virtuel. Il faut être prudent. Il faut être prudent avec le virtuel. Je ne dis pas qu'il ne doit pas exister. Il est là, mais ouvrons-nous au 3D aussi, là, à ce qu'il y a autour de nous, tu sais. C'est pas facile. Pour moi, je trouve c'est extrêmement difficile. Donc, accompagner ces parents-là qui font le saut, c'est un saut encore plus dur qu'en temps normal, là. Ça, c'est clair.
Parce que moi, on le voit là, clairement, il y a un attrait là, depuis le printemps dernier. On voit énormément de familles profiter de l'occasion pour faire le switch. De retirer là, les enfants d'école pour faire l'école à la maison. Puis on a vu cette semaine, il y a eu des reportages sur les chiffres qui ont explosé au Québec au niveau des familles qui adhèrent là, à l'école à la maison. Fait que là, je t'entends que ça se peut qu'ils vivent certains défis puis qu'ils ne vivent pas l'école à la maison à son plein potentiel. Peut-être s'ils ne sont pas outillés pour le faire, dans le fond. S'ils n'ont pas cette ouverture-là vers les apprentissages libres, peut-être, justement.
Exactement. Donc, s'ils sont avec leur passé de dire « je veux que mon enfant performe, réussisse » et puis qu'il ne soit pas en retard sur les groupes scolaires si jamais il retournait à l'école, là, vous vous mettez une pression immense puis vous n'allez vraiment pas dans le sens de la direction là, que l'école à la maison, dans le plaisir, devrait avoir.
Ben oui, puis tu vois, moi, je l'ai expérimenté là, avec mon plus grand là, qui est en deuxième année présentement. Puis, dans le fond, à la fin de sa première année, ben là, c'est là qu'on a été, confinés et tout ça. Puis, je me suis dit, bon, tu sais, je vais l'expérimenter d'être à la maison, de faire l'école à la maison. Et puis, tu vois, ça a été là, un flop total avec mon garçon parce que justement, je me mettais une attente, tu sais, qu'on allait être assis, que ça allait être... De manière vraiment, là, ben, pas stricte, là, mais de l'éducation, puis tout ça. Puis mon garçon, lui, dans le fond, il avait tellement vécu de stress par rapport à tout ça que j'ai pas nécessairement accueilli, dans le fond, ce qu'il avait besoin à ce moment-là. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, là, après deux semaines là, que je forçais, là, puis que là, je m'entêtais là, avec mon garçon, puis tu sais, on a d'autres enfants. Là. Moi, j'ai d'autres enfants. Mon plus vieux, il a 7 ans, mais j'ai mon bébé là, de 2 ans, puis mon autre de 4 ans, puis ma cocotte là, de 5 ans. Là. Fait que là, à un moment donné, là, j'ai complètement juste lâché prise. On a joué dehors, justement. Puis, ben, je me rends compte que peut-être que finalement, j'en ai fait de l'enseignement sans faire de l'enseignement. Fait que tu sais, c'est... Ouais, tu m'ouvres beaucoup de portes aujourd'hui.
Oui, puis peut-être que justement, Annie, maintenant, quand tu vas aller dehors, puis que non, ton enfant va dire « Hey, gars, maman, le beau flocon », ben tu vas dire « Hey, il y a quelque chose là que je peux
totalement.
Aller, que je peux y apprendre. » Tu sais, fait que je pense que Marc-Claude, aujourd'hui, va vraiment nous avoir ouvert vers ce monde-là d'apprentissage qui sont vraiment partout. Puis, ben je pense qu'on va conclure avec ça, puis... justement, ça m'amène, Marc-Claude, à te demander où est-ce qu'on peut... Parce que là, écoute, ça va... tu vas recevoir des messages. Puis, tu sais, ta mission, c'est aussi d'aider, je pense, les parents à se guider là-dedans parce que récemment, tu as fondé une page Facebook, si je ne me trompe pas. Donc, parle-nous un petit peu là, de ce que tu fais sur cette page-là pour pouvoir inviter là, nos auditeurs là, à se diriger vers toi par la suite.
Oui, en fait, j'ai deux pages. J'ai la page « Les apprentissages sont partout ». Il y a une couple d'articles que j'ai mis là-dessus là, avec des idées d'apprentissage, des idées de mes propres enfants qui ont eu. Là, c'est des idées vraies. Là. Alors, je me suis inspirée des activités que mes enfants ont fait, puis j'ai mis ça sur cette page-là. Donc, ça peut inspirer les parents. Et puis, j'ai « L'école à la maison pour les bonnes raisons ». Ça aussi, c'est une page
intéressante. Ah oui, vraiment.
Tu aimes ça? Ouais.
Ah, j'adore parce que moi qui ne fais pas l'école à la maison, ça me donne tellement d'idées de trucs que je pourrais faire. Donc, aller sur cette page-là. Ouais. Là, l'école à la maison pour les bonnes raisons, c'est vraiment... ben, tout parent devrait avoir accès à ce que tu fais là-dessus.
Ouais, ouais. C'est pas une page super active là, parce que j'ai ma vie familiale, ça c'est ma priorité, et ma vie à moi, on va en reparler tantôt, mais j'essaye le plus possible d'essayer d'alimenter, et aussi c'est une place où vous pouvez aller poser vos questions, donc je suis toujours disponible.
Wow. Alors on se laisse pour une courte pause, puis ensuite ben, Marc-Claude va nous faire le privilège de nous parler de peut-être de l'envers de la médaille, de faire de l'école à la maison, hein, parce que là, tu es enseignante, tu es une maman, tu partages toute ton expérience. Mais là, nous, ce qu'on veut savoir, c'est la femme. Comment elle l'a vécu, cette femme-là, de justement être à temps plein à la maison avec les enfants dans les apprentissages? Fait que moi, j'ai bien hâte de t'entendre à ce sujet-là, vraiment, parce que probablement, ben pas ma décision, là, mais tu sais, mes questionnements là, vont se concrétiser à partir de ce moment-là. Alors, on se laisse pour une pause, puis on vous revient dans quelques minutes. Alors, rebonjour les filles! On a fait une petite pause par rapport à l'école à la maison que Marc-Claude a fait comme choix, en fait, pour sa famille. Puis là, on va passer à l'autre, à l'envers de la médaille, que je pourrais dire, je ne sais pas si je l'aborde comme il faut, mais la femme hein, derrière l'enseignante et derrière la maman aussi, comment on fait pour se nourrir comme femme à travers justement cette école à la maison-là, avec 4 petits mousses, j'imagine que tu dois être bien, bien occupée. Alors, vas-y Marc-Claude, comment ta vie de femme a changé en fait avec l'école à la maison?
Bien, c'est sûr que c'est tout un processus. Là. Quand on parle de la fille célibataire que je vous parlais au départ, qui aimait voyager, qui était hyper indépendante, qui faisait tout ce qu'il veut quand elle voulait. Et puis là, tu tombes avec un mari. Là, c'est la vie de couple. Puis là, tu veux faire plaisir à l'autre. C'est plus des activités communes. Et puis là, tu tombes avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et puis le temps passe. Puis, tous les projets auxquels tu aimais avant que tout ça arrive, ben, tu finis par les oublier, puis ça ne fait plus partie de ton quotidien puis de ce que tu es, toi, là, profondément. C'est sûr que moi, ma passion du voyage, elle a toujours été présente, toujours là dans mon cœur. C'était impossible avec pour moi, je n'étais pas prête à voyager avec des enfants, d'autant plus que j'ai une fille qui est multi-allergique, là, donc les raisons étaient comme trop là pour pouvoir m'empêcher de pouvoir continuer à vivre ça. Par contre, est-ce que je me suis oubliée pendant ces dernières années? Je dirais un gros oui et totalement. Je ne m'en rendais pas compte. Je pensais vraiment là, avoir le contrôle de la situation puis de penser que je prenais du temps pour moi, mais c'était vraiment pas assez. Puis ça a été tous ces petits moments-là où que je me suis pas rendu compte que je prenais pas assez de temps pour moi. Ils se sont accumulés et puis ça m'a amené à une dépression.
Ah oui, sérieusement?
Oui. Tu sais, la priorité dans une journée, tu sais, c'est mes enfants. Tu sais, on change les couches, tout ça, surtout quand ils sont petits. Mais en faisant l'école à la maison, on est toujours, on est constamment avec les enfants. On les écoute, on voit les sources d'apprentissage partout. En tout cas, je parle pour moi, là, je les voyais partout. L'enseignante en moi, elle a vécu de l'anxiété aussi au début. La peur de scraper les enfants qui ne réussissent pas, que s'ils retournent dans le système scolaire, est-ce qu'ils vont être à niveau? J'ai tout vécu ces questionnements-là, cette anxiété-là qui était présente jusqu'à temps à ce que je m'assume complètement. Puis, toutes les activités que je faisais des activités quand même sportives le soir. J'essayais de prendre du temps pour moi, mais c'était pas évident, les filles. Je m'en rendais pas compte, là, mais oui, vraiment, là... Il faut prendre soin de soi comme femme. Ouais.
Fait que là, t'as vécu une dépression dans la dernière année. Je pense que c'est quand même récent. Puis, qu'est-ce qui t'a amené justement à le voir puis à le nommer que t'étais en dépression? Parce que, tu sais, je suis certaine hein, qu'on y a plein de femmes qui vont t'écouter puis qui vont se questionner là-dessus. Qu'est-ce qui t'a amené à dire « Ok, là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Et qu'est-ce que tu as fait, justement, pour prendre soin de toi puis t'en sortir de ça?
Oui. Bien, en fait, moi, à chaque année, à chaque mois de juin, je demandais toujours à mes enfants s'ils avaient le désir de retourner à l'école. Pourquoi je demandais ça? C'est parce que j'étais tellement dans les apprentissages libres que s'il avait envie d'aller à l'école au mois de septembre, qui m'arrivait avec cette question-là, là, tout bonnement, je voulais avoir du temps pour les préparer. Fait que je m'étais dit, j'avais un laps de temps de 2 mois pendant l'été. Puis je me disais, bon, bien, s'ils ont envie de retourner, bien, je les prépare, puis ils sont prêts. Fait qu'à chaque mois de juin, je leur demandais chacun, tu sais, chaque enfant le séparé. Et puis, est-ce que tu as envie de retourner à l'école? Puis c'était toujours non. Sauf qu'il y a 2 ans ou l'année passée, là, j'ai demandé à mes enfants, ils m'ont tous dit non, sauf que ma fille de 10 ans, de 9 ans à l'époque, est revenue comme une semaine après, puis elle m'a dit « Maman, elle dit, je pense que j'ai envie d'aller à l'école. » Tu sais, c'est quand même Elisabelle qu'elle s'appelle, c'est une fille qui est très, très sociale, elle aime beaucoup rencontrer, puis elle aime beaucoup les nouveaux défis. Elle ressemble beaucoup à sa mère. Elle aime essayer des affaires, tu sais. Puis elle était déjà allée à l'école, c'est la seule de mes enfants qui avait été, qui avait déjà eu un petit parcours scolaire. Puis elle était curieuse de retourner voir ses amis qu'elle s'était faite en maternelle. T'sais. Puis à ce temps-là, elle était en quatrième année. Là, elle a commencé la quatrième année là, en septembre. Et puis là, j'ai fait « OK, tu vas aller à l'école. » Puis pour moi, c'était... je n'étais pas déçue de ça. J'étais fière d'elle. Je me disais « Hey, c'est son choix. » Tu sais, elle est prête à retourner. Puis je me disais « Bon, ben coudonc, tu sais, j'y ai donné qu'est-ce qu'elle avait à apprendre. » Puis, j'ai dit qu'elle s'envole de ses propres ailes, tu sais. Fait qu'on s'est, elle était vraiment là, appliquée, puis elle faisait tous ses travaux pendant l'été. Elle voulait vraiment là, aller à l'école. Et puis, ben là, son petit frère, quand il a su qu'elle voulait aller à l'école, ben son petit frère aussi, il a voulu y aller. Et ça, c'est le troisième, là. Il avait 6 ans. Puis lui, il s'en allait à maternelle, dans le fond, en jardin, là, en Ontario, parce qu'il avait 5 ans. Et puis là, les deux, je les ai préparés. Le petit maternel, je n'étais pas trop inquiète. Là. C'était plus elle pour la quatrième année. Je voulais qu'elle soit prête et qu'elle ne vive pas trop de choc. Là. Puis de se pratiquer aussi dans les cahiers parce qu'elle, elle avait fait 0 cahier. Elle était vraiment nullement intéressée. Puis étonnamment, écoute, j'étais vraiment dans les apprentissages libres avec elle. Là. Puis elle se débrouillait très bien. Tu sais, elle lisait les consignes, elle comprenait, elle faisait les exercices, puis c'était allé bien. Fait que j'étais comme yes. Wow. Donc, elle a commencé, ils ont commencé tous les deux l'école et c'est là que je me suis mis à avoir du temps pour moi. J'étais juste avec deux enfants à la maison, puis là, l'énergie a complètement changé dans la maison. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. Pas parce que mes enfants étaient à l'école, mais c'est parce que c'est l'énergie, tu sais. Puis mes deux enfants qui étaient les plus... comment je pourrais dire? C'était les deux enfants qui avaient le plus... c'était tout le temps eux qui disaient oui pour aller faire les activités et sortir. Ils étaient partis, tu sais. C'était les plus dynamiques, tu sais, les plus sociales. Fait que là, je me retrouvais avec ma petite. Elle, ça ne dérangeait pas trop, là. Elle suivait. Mais le plus grand, lui, de 8 ans... il aimait mieux rester à la maison. Puis à chaque fois, je donnais une idée d'activité. Oh, non, j'aime mieux rester. Je suis comme bourre. Fait que là, tout d'un coup, je me suis mis. Puis tu sais, lui, il jouait plus tout seul. Tu sais, il n'avait pas vraiment besoin de moi. Puis bon, ma petite fille, oui, je m'occupais d'elle. Mais je trouvais que c'était plate, juste avec deux enfants. Puis là, le soir, ça revenait que, tu sais, je commençais à trouver ça long. Puis j'avais comme du temps pour moi. Puis c'est là que j'ai réalisé, là, les filles, là, que je savais même pas quoi faire. J'avais du temps pour moi, puis je savais même pas quelle activité qui m'intéressait. J'avais complètement oublié qu'est-ce que j'aimais, moi, Marie-Claude Dubé. J'en parlais avec mon mari, puis il disait, ben là, il dit, t'aimes peinturer, t'aimes... Fait que là, j'essayais, je peinturais. Non, j'aime pas vraiment ça, finalement. Et puis, écoutez, Lévi, ça a été un choc, là. Puis à partir de ce moment-là, je suis tombée dans une dépression. Là, je ne savais plus qui j'étais. Hein? Et puis, je pense que ça... Au moment, je n'aurais pas été capable de le nommer. Je me disais, OK, c'est un gros changement. Je trouvais ça extrêmement difficile. Je mettais ça sur le dos du retour à l'école versus essayer de m'adapter. Je me disais, peut-être que je suis mieux de retourner enseigner. T'sais, j'essaie de voir mon futur. T'sais, où je m'enlignerais plus tard. T'sais, j'ai dit peut-être que finalement, les enfants vont tous retourner à l'école. C'est peut-être mieux ça. Je m'étais même faite à l'idée que peut-être que l'école, c'était mieux que l'école à la maison. Écoutez, j'étais là, dans les questionnements. Là, le mental se faisait aller. Là. J'avais, tu sais, quand ils disent le petit hamster qui roule, là, je n'arrêtais pas. C'était des questionnements là, à l'infini. Puis, j'ai vraiment tombé là, dans la tristesse là, de pleurer à chaque jour. J'ai tout vécu ça. Puis moi, j'étais, tu sais, là, vous me connaissez maintenant, là, vous voyez, je suis quelqu'un de rayonnant, dynamique. Mais dans ce temps-là, là, la dernière année, ça a été extrêmement difficile. Je pleurais, j'étais triste. Je ne savais plus ce que j'avais envie de faire. Fait que oui, c'est présent. Puis est-ce que je me suis oubliée là-dedans? Oui. Puis les femmes, il faut faire attention, il faut penser à nous.
Oui, bien justement,
notre discussion-là, Annie, hein? Pas plus tard que la semaine passée.
Ouais. Hein,
avec nos groupes de mamans, puis...
C'est un peu notre nouvelle mission de vie, je pense.
Hein, je l'ai dit, cette phrase-là. On dirait, moi-même, là, actuellement, tu me donnerais des air loose, là, puis je ne saurais même pas quoi faire avec.
Oui. Ah ouais, c'est ça, tu sais, puis pour
moi, d'être la seule, puis je veux dire, je sais, là, qu'il y en a plein qui nous écoutent, puis qui vont avoir une petite claque dans la face, peut-être, avec ça. Mais il faut le nommer. Puis tu sais, justement, en fin de semaine, ma soeur, elle m'est arrivée avec... parce qu'on a eu cette discussion-là, Annie, avec les patients, hein, avec nos mamans la semaine passée. Et ça m'a fait questionner, hein, dans les jours qui ont suivi. Puis je me suis dit, ben tu sais, j'aimais lire avant, tu sais. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé, puis que je fais plus. Puis ben ma soeur, en fin de semaine, sans savoir, elle m'a envoyé un beau message, c'est qu'elle m'a offert un livre.
Wow!
Fait que j'ai commencé à lire ça pas plus tard que samedi soir quand j'ai eu ce livre-là entre les mains. J'ai commencé à lire. Donc ça m'ouvre déjà, tu sais, à vouloir justement retrouver certaines choses que j'aime. Peut-être qu'ils ne sont même plus les mêmes hein, qu'avant, je ne sais pas. Je vais être en train, tu sais, je suis en train de d'y penser puis de m'ouvrir à ça. Fait que ton message est, Marc-Claude, est pertinent puis combien important là, de ce que tu lances aujourd'hui, là, vraiment. Là.
Ben oui, puis tu sais, les mamans qui écoutent aussi en même temps, ben ils doivent se reconnaître aussi là-dedans. On en parlera éventuellement de tout ça, mais les ateliers qu'on fait en ligne avec, avec nos mamans, on a du contenu qui est assez... moi, qui m'attriste parce que les mamans finissent par plus savoir hein, où est-ce qu'elles en sont. Puis personnellement, c'est justement pour ça que j'ai demandé à Cathy qu'on crée un groupe de mamans épanouies parce que faut pas s'oublier comme femme, on est des parents, on est une conjointe, un conjoint, mais Colin, la petite fille en nous, là, elle en a des passions, puis elle en a des expériences qui... Alors, c'est vraiment passionnant. Puis, tu sais, je pense que quand on devient maman, quelque part, une fois dans notre vie, on finit tous par s'oublier.
Ouais.
Ça, ouais, c'est...
J'en connais pas beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à un moment ou à un autre à ce constat-là. Bon, il y en a qui ne l'ont pas exprimé, qui l'ont vécu, on ne le sait pas, mais qui ne l'ont juste pas exprimé. Mais je pense qu'à un certain point, puis aujourd'hui, on a toute l'espèce de performance. Hein? Puis tu sais, Marie-Claude a fait un choix atypique de se diriger vers l'école à la maison. Donc, c'est sûr que dans peut-être même son inconscient, elle avait quand même un désir de performance. Parce que, on se fait-tu quand même tout le temps un peu juger dans nos choix en tant que mère, en tant que père? Bien, c'est sûr que ça doit ajouter de l'eau au moulin un petit peu aussi à se dire, je suis capable, je continue, je suis là-dedans. Puis là, en plus, deux enfants qui veulent retourner à l'école, bien, clairement, ça a dû t'apporter énormément de questionnements. Donc, là, par la suite, as-tu eu des réflexions, Marie-Claude, as-tu trouvé des choses? Ça a été quoi ton cheminement par la suite? As-tu fini par réaliser que, tu as intégré des activités que tu aimais? Comment tu as fait là, pour te sortir de ce pattern-là? Là?
Bien, en fait, les filles, là, moi, c'est les cercles de femmes qui m'ont sauvée.
Fait qu'on fait pas ça pour rien, là!
On fait pas ça pour rien, ma belle année!
J'ai rencontré une guide spirituelle, appelons-la comme ça, qui m'a complètement, qui m'a donné le pouvoir de pouvoir m'honorer moi-même comme femme, tu sais, de voir qui je suis vraiment, et puis de prendre du temps pour moi pour m'honorer, exactement, c'est le mot qui me vient en tête.
Oui, bien, c'est le bon.
Oui, ouais. Oui! Puis j'ai réalisé que c'est ça, en travaillant sur moi, puis à travers, c'est ça, ces cercles de femmes-là où on prend le temps de s'exprimer et d'écouter. Hein? Avez-vous déjà participé à ça, des cercles de femmes, les filles?
Bien, nous, dans notre monde d'accompagnante à la naissance, c'est quelque chose qui est fréquent, les cercles de femmes, les tentes rouges qu'on appelle, les trucs comme ça. Fait que oui, clairement, j'ai déjà participé à ce genre d'événement-là. Actuellement, ce qui est plus difficile, c'est que tout se fait en ligne. Et c'est sûr que c'est mieux que rien. Hein? Parce que quand on voit des femmes qui sont isolées, qui manquent de social, qui sont vraiment au bout du rouleau, ben c'est sûr que c'est une ressource qui est aidante et qui peut devenir essentielle pour ces femmes-là. On a eu ces commentaires-là pas plus tard que la semaine passée, à quel point, avec nos Zooms, on changeait la vie de beaucoup de femmes. Mais il reste que des cercles de femmes avec des plateformes en ligne, il y a une espèce d'énergie de connexion qui passe moins, tu sais. Fait que c'est sûr que oui, les cercles de femmes, tout ça, je suis quand même familière avec ça. Je sais comment ça se passe. Et ça me manque terriblement. Puis pas plus tard qu'hier, j'avais ma formation pour devenir praticienne en hypnose. Et évidemment, on faisait ça avec la plateforme en ligne. Et c'est ce que j'ai nommé. J'aurais le goût de faire un méga câlin. Ça manque le contact humain. Oui, c'est le fun, c'est mieux que rien. On se voit, on se retrouve. Mais c'est ça que je trouve un petit peu difficile actuellement dans ce genre de cercle-là. C'est que c'est ça. C'est le contact, la vibration de l'autre, on la sent moins. Mais là, toi, tu as quand même eu l'opportunité de faire des cercles là, en présentiel, tout ça, chez une
avec
femme.
Avec les règles de l'art.
Avec les règles de l'art, on va le spécifier,
ouais, avec c'est les important. Règles de l'art, oui.
Mais chez une femme hein, qui vous accueille, je pense, c'est chez
ça.
Elle.
Oui, puis des fois, ça peut être sous forme de retraite. Donc, tu sais, ces moments-là, ouais. Moi, j'essaie de les privilégier. Je pense que c'est important en tant que femme de prendre ces moments-là. Moi, les cercles de femmes, c'est au moins 3-4 fois par année, là, minimum. Il faut le faire, OK? Quand on ressent l'appel de le faire, on le sent, bien, c'est go, on y va. Moi, je ressors toujours grandie. Puis c'est à travers ça que j'ai réussi à passer ma dépression. Vraiment, les filles, c'est vraiment comme ça. Ça m'a fait vraiment un bien immense.
Qu'est-ce qui a ressorti de ces cercles-là? Qu'est-ce que ça t'a le plus mis en lumière, dans le fond, chez toi?
Oui, bien, je pense que c'est les enseignements qui sont enseignés par aussi, tu sais, la guide spirituelle, oui. Et aussi l'expérience des autres aussi, tu sais, c'est l'effet miroir d'écouter ce que les autres vivent, puis qui nous font vraiment comme ressentir des choses similaires. Donc, vraiment, c'est l'accueil, puis de prendre, c'est ça, c'est de prendre c'est ce temps-là aussi pour nous ailleurs de la maison, donc tout ça.
Mais de se faire accueillir, hein, parce qu'on doit le dire dans ces cercles-là, puis Annie, c'est ce qu'on recrée hein, avec nos mamans, il n'y a pas de place au jugement là-dedans. Fait que c'est juste de l'accueil, puis ça leur fait du bien, parce que tu l'évacues, après ça, c'est comme si... on se sentait plus libre. Donc, je te comprends totalement dans... Parce que je sais c'est quoi cette approche-là. Puis, clairement, là, avec une guide en plus, qui apporte ce niveau spirituel-là, on s'en va un petit peu plus à l'intérieur de nous. Puis, est-ce que ça t'a confronté par moment? Est-ce que tu as eu des parce que je sais comment ça se passe. J'ai souvent pleuré dans des cercles de femmes, OK? Est-ce que tu as vécu un moment où tu as dû... où que le presto a sauté, comme on dirait?
Oh oui, et
que
plusieurs fois. Ouais. Plusieurs fois, tu sais, on confronte des blocages là, qu'on a à l'intérieur, puis ça sort, puis tu sais, il faut les accueillir, hein, ces blocages-là. Qu'on a quand ça remonte, c'est de les laisser remonter, puis il faut que ça sorte. C'est en pleurant qu'on se libère. Hein?
Oui,
exactement. Donc, les filles, c'est vraiment un moyen là, de prendre du temps pour soi. J'ai aussi, je voulais parler des marches.
Oui.
Les marches que j'appelle les marches méditatives. Je ne dis pas de faire aum en marchant, là, mais juste d'aller marcher là, sans dire que tu performes, de dire j'ai marché en tant de minutes. Sans te donner un temps précis, de juste dire « je m'en vais marcher » puis quand ça ne me tente plus, je reviens, là, tout simplement. Ces marches méditatives-là, pour moi, c'est un temps précieux. J'y prends tous les jours. Tous les jours, mais des fois, ça se peut que ça ne me tente pas puis j'y vais pas. Ou des fois, je vais juste faire une petite marche, juste un petit tour, puis je me dis « ça m'a fait du bien ». Donc, ces marches-là, là, c'est vraiment important pour moi. Que j'ai implanté un peu dans mon horaire de la journée. Puis, écoutez, vous allez rire, là, mais maintenant, là, je mange mes salades végétariennes. Parce qu'avant, là, j'y pensais pas, là. Tu sais, je pensais seulement à mes enfants, puis ils n'aimaient pas la salade. Bien là, maintenant, je prends du temps pour moi. Si j'ai envie de manger mes salades végé, je les mange! Puis, tout ce qui est à niveau lecture, puis écriture, lecture, je lis fréquemment. Puis là, j'ai découvert la passion de l'écriture. Là. Pour moi, c'est j'aurais jamais pensé aimer ça autant. Mais c'est un temps là, que je m'accorde. Là, présentement, là, la passion d'écriture, là, pour moi, c'est au moins 5 heures par jour là, qui est là. Wow. Puis les enfants sont au courant. Tu sais, on en parle de l'école à la maison. En tant que femme, même si on fait l'école à la maison, les enfants doivent comprendre que la maman ou le papa ont aussi du temps pour eux, en présence en présence des enfants. Là. Alors, pendant que les enfants sont là, j'ai le droit, moi aussi, d'avoir un temps pour moi que je fais une activité que j'aime puis qu'ils respectent ça autant que moi, je les respecte dans leur activité aussi. Alors, c'est important d'incarner ça, cette acceptation-là de prendre du temps pour soi.
Ben oui, puis là, tu parles de d'écriture et tout ça, que c'est rendu une passion pour toi, mais je pense que tu as des projets par rapport à tout ça. Tu as écrit un livre, je crois.
Oui, Bien là, présentement, oui, je suis dans la finalisation de l'écriture de mon livre. En fait, ça s'appelle « Des étoiles dans les yeux ». Puis là, présentement, j'ai eu la première lecture de ma réviseur. Et puis, il paraît que c'est bon. Fait que je suis vraiment excitée. Ça parle beaucoup de mon parcours de vie. C'est romancé, par contre, c'est sûr que j'ajoute de la frioriture pour rendre ça encore plus intéressant. Mais ça parle vraiment, dans le fond, c'est l'évolution d'une enseignante,
okay.
D'une enseignante de 23 ans qui a de la difficulté à réussir ses cours à l'université, elle n'est pas bonne, puis elle n'a pas son diplôme au bout de ses 4 ans d'études, puis se pose sur sa vie le goût d'aller voyager. Et puis, elle va aller voyager à travers le monde. Elle va aller faire différents pays où elle va apprendre qu'il y a d'autres façons d'enseigner aux enfants. Puis, elle va s'inspirer de ça pour créer l'école idéale. Wow. Alors, c'est wow. vraiment un voyage. La personne qui va lire ça, ça s'adresse autant aux enseignants, aux éducateurs, puis aux parents. Tous ceux qui ont des enfants, là, qui sont ouverts à l'éducation des enfants. Ils vont vivre en quelque sorte, je vous dirais, un voyage un peu tant personnel, spirituel que professionnel pour ceux qui sont dans le domaine de l'éducation. Alors, ça devrait paraître, là, ça devrait sortir mon lancement de livre probablement ce printemps, là, mais c'est ça, là, je vois ma réviseure mercredi, là, très bientôt, puis on va discuter là, de tous les détails là, concernant ça.
Wow! On a-tu le goût de le lire?
Ben là, puis tu sais, là, moi, c'est ce que je voulais te dire, Marc-Claude, c'est que nous, on est en Zoom présentement, les auditeurs, ils nous voient pas, mais clairement, ce choix de nom-là de ton livre est incroyable, ça te représente à 400%, t'as vraiment des étoiles dans les yeux quand on te regarde. Puis écoute, c'est moi, c'est certain que je vais le lire.
Ah oh oui, vraiment, ça va être passionnant. Ouais.
Puis c'est sûr que tu sais, j'ai l'idée aussi de la création d'une école. Tu sais, le livre, comme je vous dis, parle beaucoup de ma vie, mais tu sais, j'ai dans la tête et dans le cœur l'espoir que on change un peu le milieu scolaire puis qu'on apporte une nouvelle façon de voir l'éducation des enfants. Je rêve d'un centre où l'enfant peut se développer à son rythme, où il peut vraiment développer ses talents et ses dons en compagnie de personnes passionnées qui sont là pour transmettre leur passion et non des connaissances. Alors, je rêve de ce centre-là qui serait accessible à tous les enfants gratuitement, s'il vous plaît, sans trop de règles, et où les enfants sont traités égales avec les ouais. adultes. Alors, un jour, peut-être, je mets ça, je commence par mon livre, puis on verra par la suite qu'est-ce qui va arriver. Puis aussi, les filles, un de mes rêves, là j'ai trois rêves. J'ai mon livre, l'école, et aussi mon rêve de pouvoir inspirer les nouveaux enseignants oui. Par mon livre, surtout, pour que les enseignants sachent que je sais que c'est pas facile, surtout présentement, que je suis là avec eux et qu'avec toute l'expérience que j'ai, de leur montrer que ça existe d'enseigner d'une autre façon, qu'il faut oser, même si c'est pas facile, même si on nous donne énormément de paperasse à remplir, plein de conditions, que c'est facile de sortir du lot quand même, puis de garder nos convictions les plus profondes, ce à quoi on croit, puis surtout garder notre passion dans les yeux quand on enseigne. Alors, j'aimerais pouvoir transmettre ce message-là là, à tous.
Puis de quelle façon tu penses que tu pourras aller chercher ces personnes-là? Est-ce que par le biais des fois de conférences, de formations que tu pourrais mettre en place? En tout cas, moi, je t'écoute parler, puis moi, l'entrepreneur en moi a déjà 56 millions d'idées. C'est sûr que tu n'es pas rendu là, mais ça pourrait peut-être se traduire en ce sens-là.
Exactement. Moi, j'aimerais pouvoir avoir accès à ces jeunes enseignants. C'est surtout les jeunes enseignants qui terminent l'université, puis que j'aimerais pouvoir leur parler, leur communiquer sous forme de conférence, sous forme de formation, je ne sais pas, ou donner un cours, mais j'aimerais pouvoir... Pouvoir leur montrer qu'il y a autre chose qui existe mm-hmm. dans la vie que le système actuel. Voilà.
Hey, wow! Ben écoute, Marc-Claude, tu es extraordinaire, vraiment très, très, très inspirante. avec le choix de faire plein d'aventures comme ça. Si jamais tu as envie de t'installer en Mauricie, près de chez nous, on l'ouvrira ton école ensemble. Ça pourrait être un beau projet pour toi. Mais wow, quelle belle mentalité de vie, quelle belle ligne de vie aussi.
Ouais. Et on voit que tout n'a pas été parfait, tu sais. Je veux dire, il y a eu beaucoup de réflexions qui ont été faites. Tu sais, des fois, on montre des parcours de vie de gens que, ah, wow, tu sais, on dirait que ça a donc bien été fluide et facile. Tu sais, ce que j'aime de ce qu'on apporte dans nos entrevues, si je peux dire comme ça, ben c'est qu'on laisse la place au vrai de s'installer. Puis le vrai, ben c'est que non, c'est pas vrai que ça a tout le temps été facile. Mais voici comment cette personne-là a émergé de cette expérience-là. Puis c'est ça qui est précieux, tu sais. En tout cas, moi, je suis...
L'espoir de cheminer, hein? L'espoir de montrer aux femmes qu'on peut cheminer à travers nos erreurs, nos échecs, nos déprimes, nos dépressions. Puis ça, ben l'espoir...
On a vraiment là l'espèce de mentalité de se taper sur la tête hein, quand ça nous arrive. Parce que là, la performance de société est tellement forte, tellement installée chez les parents, chez les nouveaux parents, chez les mères, que ça devient excessivement lourd. Puis c'est encore plus difficile à ce moment-là d'aller chercher de l'aide. Fait que je pense qu'aujourd'hui, ça lance un super beau message, puis ça fait partie de notre mission aussi à moi puis Annie de permettre cet espace-là aux femmes, puis à chaque semaine, on réussit hein, à faire un petit quelque chose. Puis
c'est à nommer les vraies choses.
Mais on le sait que pour cette femme-là, cette journée-là, ça va peut-être tout changer le fil de sa vie, peut-être.
Oui.
Fait que c'est le message que je voulais lancer, là.
On a une maudite belle mission entre les mains, puis j'espère vraiment qu'on va réussir à aller toucher le plus de femmes possible. Hein, de vulgariser le quotidien, de nommer les vraies choses, puis de... on arrête, là, tout simplement, là, d'avoir la parure.
Ouais, on arrête la game, là, puis on dit les vraies choses. T'sais, c'est ce qu'on veut amener avec... avec le projet du podcast aussi.
Oui.
C'est le but aussi. Merci tellement, Marie-Claude, d'avoir été là. Pour vrai, je savais que cet épisode-là, j'aurais des frissons tout le long, puis c'est vraiment le cas. Pour vrai, j'ai vraiment aimé t'écouter. On t'entendrait pendant des heures. Puis clairement, on va certainement te réinviter pour un autre sujet, hein? Tout autre sujet. Ça pourrait être super plaisant aussi. Donc, Annie, je te laisse le mot de la fin, ma chère.
Ben oui, écoute, moi, je te remercie autant que Cathy. Ça a été vraiment une belle rencontre aujourd'hui, hein, parce que moi, je la connaissais pas, Marie-Claude. C'est la sœur de Cathy. Cathy m'en a déjà parlé, mais on se connaissait pas, hein, on s'était jamais vus. Puis franchement, là, t'as ouvert des belles choses dans mon intérieur, dans l'espoir de mes projets et tout ça. Puis franchement, ça fait du bien aussi de rencontrer une autre femme qui a vécu un parcours différent, qui a aussi 4 enfants, hein, parce que on ne veut pas, tous les gens qui ont des enfants sont super importants, mais quelqu'un qui vit la même chose que nous au quotidien, c'est quand même impressionnant. Alors, je te remercie du fond du cœur, puis j'espère que tous tes beaux projets vont fonctionner puis vont porter fruit. C'est ça. Puis là, on en a parlé aussi dans le premier segment, mais... où est-ce qu'on peut te retrouver justement là, pour tes groupes et tout ça? Là,
Oui, bien en fait, il y a ma page L'école à la maison pour les bonnes raisons. Il y a aussi Les apprentissages sont partout. Puis bientôt, peut-être, je vais avoir un site web pour mon livre. Je pourrais vous donner le nom de la maison d'édition. Je la connais peut-être, mais ce n'est pas officiel. Donc, toute l'information va être sur ma page de l'école à la maison pour les bonnes raisons.
Parfait. Écoute, un énorme merci encore une fois. Puis si les gens ont des questions, ben on pourra faire le lien là, vers ta page, vers ton nom et tout ça. Fait qu'un énorme merci. Puis on se retrouve pour un prochain épisode d'Un Expresso, s'il vous plaît. Merci tout le monde.
Merci, Annie. Merci, Annie.
Bye-bye.
Alors, si vous voulez nous retrouver, Cathy et moi, alors Cathy, vous pouvez la retrouver sur son site internet de Cigogne et Baluchon. Et puis sinon, bien, sur sa page Facebook, Cigogne et Baluchon. Et pour ma part, Annie Normandin, intervenante familiale, ce qui est ma page Facebook à moi. Et sinon, au www.interventionfamille.com, où vous pourrez retrouver dans la section blog tous nos podcasts.